Bienvenue chez les Papous de France Culture. En piste, Françoise Tressart et la belle équipe à l'affiche. La suite de notre émission enregistrée à Brest pour le festival Longueur d'onde. Il sera question de port et de radio Henri Mayer et d'une vie de soutien-gorge 80 bonnets A, selon Violaine Schwartz.
Je faisais briller tous mes smileys sur mes bonnets. Car je ne vous ai pas dit, mais je suis entièrement imprimée de smiley jaune sur fond vert d'eau. C'est trop lol, comme elles disent.
Et puis le DLA, avec les experts Dominique Muller, Jean-Bernard Pouille, Hervé Letellier.
Déçu est en italique. Ça correspond quand même à des moments de la littérature dans lesquels on se dit « Lecteur, fais bien attention, je souligne déçu ». Lecteur, fais bien attention, je souligne flatté, donc c'est une sorte de distanciation brechtienne par rapport au texte complètement oublié que plus personne n'ose faire. Aujourd'hui, maintenant, on part du principe que le lecteur sait lire.
Et nous nous quitterons sur la vie de Dimanche par le Cafournier. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h59. Merci de votre fidélité à nos jeux papous et un grand salut à ceux qui nous rejoignent. Un numéro des papous à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Allez, c'est parti avec une page de Publipapoucité écrite et chantée par Jeanne Carillon avec des bons petits rôles pour Odile Conseil, Patrice Caumont, Philippe Manès et pour la musique au piano Gabriel Godard.
Bien sûr, ce n'est pas la bicyclette, ça n'est pas la motocyclette, mais c'est bien pratique tout de même. La patinette, sur le trottoir je les entraîne, la déjection je les malmène, je zigzague, j'ai l'air un peu bête. À patinette, ils savent mieux que moi, c'est sûr. Slalomé à très vive allure, Arsène, Mia, Renaud, Arthur. À patinette, ils se moquent de mon allure. Patiner avec mes chaussures, à talons, c'est une aventure. À Paris et à patinette. Bien sûr, je peux prendre un Vélib tous les jours quand je veux être libre. Mais Dieu, qu'elle est belle, je l'exhibe. Ma patinette, je la bichonne comme une starlette. Je l'appelle ma petite Arlette. Pour elle, j'écris cette chansonnette. Oh, patinette, ma patinette, j'aimerais m'entraîner en cachette. Prendre la poudre d'escampette. La nuit, patiner en chaussettes. Ah, patinette. Et tant pis pour ma margoulette, je me casse trop souvent la binette. Est-ce que j'ai l'air d'une mauviette quand je chois près de ma patinette? Même si je me mange le trottoir, faut rester digne dans le désespoir, étendu devant mon auditoire. À patinette, je rêve soudain qu'on me relève, qu'un passe en face des étincelles, qu'il me roule un patin, une pelle. À patinette.
On dit pas patinette, on dit trottinette.
Ah zut, ça perlotte, et pourquoi?
Parce que ça fait ringard.
Ah bon?
C'est comme baliverne.
Tartampion.
Ricrac.
Chandail.
Turlupine.
Peanuts.
Non d'une pipe.
Bout en train.
Trublion.
C'est parti mon kiki.
À toute berzingue.
Minute papillon.
C'est la poêle qui se fout du chaudron.
Tip top moumoute.
Mais moi j'aime la ringardise, avec elle je suis cul et chemise. Mon Dieu, oh oui qu'elle est exquise. Ma patinette, ma patinette.
Du privé en studio, au quartz en public. Le 6 février dernier, nous étions les invités du festival Longueur d'onde, le festival de la radio, pour une soirée des papous dans la tête, dans la grande salle du Quartz. 800 personnes dans la salle, ça fait chaud au cœur, merci. Et sur la scène, Dominique Muller, Lucas Fournier, Violaine Schwartz, Hervé Letellier, Jean-Bernard Pouille et moi. Alors, vous avez pu entendre dimanche dernier la première partie de cet enregistrement public, avec des portraits marins, des histoires de cuisine, discours au frigo, l'amour, Henri Mayer, et les périphraseurs sur une phrase de Marguerite Duras. J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches. Des vaches périphrasées par Monsieur Puy comme nos secondes mamans. On reprend le fil de cette soirée brestoise en poursuivant la visite de la maison des Papous. On est dans la maison des Papous dans la tête, on va sur le balcon et sur le balcon, on regarde la vue et qu'est-ce qu'on voit au loin? Le port, alors pas seulement le port de Brest, mais les ports en général. Et c'est Violaine Schwartz qui s'attaque au mot port, P-O-R-T, hein, je précise, pour un petit rimailleur qui se présente comment, Violaine?
Je vais le chanter sur l'air de Le Tango Stupéfiant,
oh, ça
interprété
va être
par Marie Dubas. On dit que tout est bon dans le cochon. Moi, ce que je préfère, c'est les vrais porcs. Ça me culbute le ponton, ça me fait rêver, j'en perds le nord. Les quais, les docks, les bites, les môles, les digues, les phoques, les nœuds, les proues, les mâles, les mouettes, les houles, les yoles, les phares, les yachts, les quilles, les boues. Ça me chavire de bord en bord, ça m'émoustille sans frais de port. Je cours les onces avec constance. Port de pleine mer, au port à sec, au port de pêche ou de plaisance, au port lacustre ou de commerce, et ça rabiote mes finances. Aujourd'hui, Brest, demain, Toulon, je veux juste arriver à bon port. Amsterdam, je connais la chanson, il y a toujours Brel dans le décor. Et Baltimore, et Calcutta, Marseille, Tokyo, Caen et Paimpol, tous ces voyages hors de chez moi, me plument un max, coûte un pactole. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Au port d'attache, je suis vouée. Les ports de voix, les ports à faux, les ports francs, les ports de lunettes, les ports de l'angoisse, quel fléau. Les ports en lourd, faut que je m'arrête. Au port, je vous ai dans la peau. Je voudrais bien vous supprimer, vous virer de mon ordinateur, mais je suis en rade sur cette jetée, je sais pas quoi faire de mon curseur. J'essaie de garder un beau port, la tête droite, le regard fier, mais je suis à bout, mis le sabord, j'ai plus un sou, quelle misère. Mais je ne peux pas me débrancher, au port réseau, je suis pluguée. Port matériel, port logiciel, port royal, port d'armes, port de barbe. Oui, je l'avoue, c'est officiel. Je vous aime tous à la rhubarbe. Au port, je vous ai dans la peau. Poil au dos.
Les Papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Et France Culture, c'est la radio, de même que le festival Longueur d'onde. C'est le festival de la radio, le seul, l'unique. Bravo de l'avoir créé. Jean-Bernard Puy, je l'ai rencontré grâce à la radio. Il y avait un producteur de France Culture, producteur au Panorama, qui s'appelait Michel Bidlowski, et qui un jour a dit à Bertrand Jérôme, tu sais, je connais un type qui est formidable, il écrit des romans noirs, oui, c'est beau, il écrit des romans noirs et il écoute les Décraqués tous les jours, c'était à 13h30, et les Papous dans la tête, tu devrais le rencontrer. Voilà, rencontrer Jean-Bernard Puy, c'est l'adopter. On s'est vu, on s'est aimé, on s'est plu. Et lui seul pouvait traiter ce joli mot de radio, comme un hymne à la radio, Jean-Bernard Puy.
Oui.
C'est un poème, c'est ça.
L'heure est grave, les gars, je suis radioactif. Alors, Becquerel n'y est pour rien, Marie Curie non plus. Je n'éclaire pas la nuit. Non, ce n'est pas maladif. Atteint par un préfixe, un bonheur, un surplus, que vous connaissez bien, qui me rend moins idiot, ce préfixe, ce nom, c'est celui de radio. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est pour la même raison. Car nous vivons ici dans la même maison, celle de la radio et celle aussi du quartz. Et allez, bon courage, faire une rime avec quartz.
Pas facile. Oui.
Jolene Schwartz.
Il n'y en a pas.
Jolene Schwartz, c'est pas mal, oui. Ah, bien joué, Hervé.
Roméo et Alpha Delta India Oscar. Ce ne sont pas des joueurs du football club de Brest, ni des acteurs mineurs, du moins ce qu'il en reste. Vous l'aurez deviné, ce n'est que la parole des pilotes d'avion à la tour de contrôle pour signifier radio. En termes primordiaux, radio libre ou pirate, national, aristocrate, bêtement périphérique, dédié à la musique, bourré de politique ou bien d'humour caustique. Pourtant, si l'on s'en tient seulement au préfixe, force est de l'admettre, il est plutôt prolixe. Le gramme, le télescope, thérapie et phonie, diffusion et scopie, le réveil, la graphie, la fréquence, le taxi, cassette, télégraphie, serait rien sans radio, préfixe immanent, irradiant, édifiant, chatoyant, tonifiant. La radio en un mot, c'est quoi et c'est qui? Je vous donne un aperçu, certes trop rikiki, émission de signaux par un biais très pratique, celui connu des ondes électromagnétiques. Grandes et petites ondes, modulation féconde, j'arrête là, c'est immonde, pas question de confondre la radio bien-aimée et le Collège de France. Passer à la radio, c'est un bonheur intense. Passer à la radio, ce n'est pas s'allonger pour que l'on vous dépiste un quelconque danger. Non, passer à la radio est signe de liberté. Pas besoin de veston à la mode Brunel. Vous pouvez éviter de boire que du thé. Vous pouvez en même temps vous gratter la mamelle. Vous pouvez grimacer, aussi cligner de l'œil, faire des gestes inconvenants, comme un pauvre épagneul. D'ailleurs, c'est vrai, tout vient d'un animal. Tout petit, inconnu, qui est un peu spécial, qu'on aurait pu nommer castor, mais qui fut appelé transistor. Avant, les postes à galène, il fallait se cogner, ou des armoires géantes en bois de châtaignier. C'est fini maintenant. La radio est incluse dans vos bigots, stylos, restos, motos, cambuses. La radio, le bonheur des tolards, des poètes, des malades, des non-voyants, des marins, des esthètes, sans parler, je vous comprends, de tous les insomniaques et de tous ceux coincés dans leur vieille baraque, bretonne en général. Et puis, avantage suprême, on peut écouter cette radio-poème en faisant autre chose, de moins beau, de moins rose, sauf, bien évidemment, et j'en suis convaincu, et ça vous le savez, s'il s'agit de France Q.
C'est une très bonne idée d'avoir chuté sur France Culture, Jean-Bernard Pruy.
Non mais je suis payé. Habile. J'ai 122,27 € de plus.
Ah, non, vous rêvez, vous rêvez.
Non.
On poursuit la visite de la maison des Papous avec la salle de bain et c'est avec Violaine Schwartz qui nous raconte une vie d'objet qui n'a pas toujours vécu dans la salle de bain.
Non. Hein,
c'est un objet du masculin ou du féminin?
C'est un objet plutôt féminin.
Oui.
Je suis un soutien-gorge.
Ah ben c'est masculin. C'est vrai, hein. Et singulier.
Bizarrement, oui. Ouais.
Je suis un soutien-gorge, c'est vrai. Je suis tout petit, mais je suis un vrai soutien-gorge, comme les soutiens-gorges de madame. J'ai une poche pour chaque sein. J'ai des bretelles ajustables avec des œillets et des agrafes. J'ai 3 positions à régler dans le dos et j'ai une taille comme les autres. Une vraie taille de soutien-gorge. 80A. Sur mon étiquette, il n'y a pas écrit...
Oui,
mais il n'y a pas écrit 12 ans, il y a écrit 80A. Donc je suis un vrai soutien-gorge,
oui,
un vrai
oui,
de vrai.
Oui, 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 c'est vrai.
Je suis le premier soutien-gorge de mademoiselle. Vous auriez vu comme elle piaffait de m'avoir, comme elle languissait de me porter. Elle me regardait en douce dans les rayons du magasin. Elle me touchait discrètement, je la faisais rêver. Je voyais bien qu'elle en avait assez des brassières, des trucs de sport tout aplatis, sans couture, sans bretelles, pas sexy, pas girly. Je voyais bien qu'elle était prête à passer le cap. Je faisais briller tous mes smileys sur mes bonnets. Car je ne vous ai pas dit, mais je suis entièrement imprimée de smileys jaunes sur fond vert d'eau. C'est trop lol, comme elles disent. J'ai même un petit smiley métallisé à l'entrebonnet entre les deux seins. Enfin, les deux seins, c'est beaucoup dire, disons les deux petites bosses. C'est trop mignon quand ça pointe sous le t-shirt. Et donc, j'en étais où ? Ah oui, ma coquetterie. Ce petit sourire au fond de mon décolleté, elles adorent. Les louloutes, les adotes, les minettes, c'est trop fashion. Et donc, un jour, elle a pris son courage à deux seins. À demain. Excusez-moi, je n'arrête pas de me tromper. Déformation professionnelle. C'est à force d'en voir. Enfin, ou plutôt, soyons honnêtes, arrêtons de mentir, à force de vouloir en voir. À force d'en rêver, plutôt. Parce que moi, je n'ai droit qu'à des débuts de machin. Et ça finit par me peser à la longue. J'en ai un peu ma claque de la puberté, même si c'est trop mignon sous le t-shirt. Les mini-virgules, les noyaux de cerises, les boutons de rose, les œufs au plat, les noisettes de gigolette, c'est vrai, j'en ai fait le tour de taille. Et je vous avoue que j'aimerais beaucoup en voir des vrais, des beaux, des gros, des nichons tout ronds, des tétons de matrone. J'aimerais beaucoup servir à quelque chose pour de vrai, et non pas faire semblant. Mais je vois tout en noir aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire ça. Je sers à quelque chose, je sers à grandir, je suis symbolique. Je suis un rite de passage, je suis très important, je suis le premier. Et donc j'en étais où ? Ah, ça ballotte cette histoire. Et donc un jour dans le magasin de lingerie, elle a pris son courage à deux seins. Bon bref, et elle a couru chercher sa mère au rayon adulte, qui rêvait elle aussi de nuits glamour dans les dentelles, de nuits coquine swipe en terre avec string assorti, qui rêvait en pensant à son nouvel amant très exigeant sur les dessous. « Faudrait que je tente la guêpière », pensait-elle. « Je peux encore me le permettre. » Pensait-elle encore « Je suis trop vieux jeu. » Et regardant ma grande sœur 95D, en tulle noire transparent, avec balconnet spécial plongeant, ça va me faire un décolleté à tomber, il va plus en pouvoir. Imaginant la bouche de son nouvel amant lécher la petite perle, imaginant sa main se faufiler sous les dentelles. Et donc, j'en étais où Ça me manque de tenue, tout ça. Il faut que je resserre les bretelles de mon histoire. Et donc, la petite demoiselle, bah, j'en étais là. Évidemment, je me dépêtre jamais des demoiselles, jamais. Et donc, ma petite Lolita, elle avait le cafard devant les brassières. Je ne peux plus dire comme ça. Maintenant, on dit qu'il y avait grave le seum. Et moi, il faut que je plaise aux jeunes. Il faut que je parle comme la mienne. Et donc, ma petite princesse, elle a couru chercher sa daronne. Et elle lui a chuchoté tout doucement à l'oreille « Maman, viens voir !» Et elle l'a tiré par la manche jusqu'au rayon ado et elle m'a montré du doigt, moi, en rougissant jusqu'aux oreilles. « Mais faut l'essayer, » a dit la mère. « Et c'est quoi comme matière ? Mais ça va te faire des allergies, c'est pas confortable. Et c'est quoi ces coussinets ?» qu'elle a dit encore. « Parce que j'ai des coussinets amovibles qu'on peut glisser dans les bonnets pour faire des seins un peu plus gros. » Des faux seins en coton. C'est chouette pour les Lolitas. Ah non, je me suis encore trompée. Quand on est imprimé de smiley comme moi, on ne dit pas c'est chouette, on doit dire c'est trop swag, c'est grave kiff. Et donc dans la cabine, tout engoncée dans sa pudeur, elle n'arrivait pas à me fermer dans le dos, ma petite princesse, les doigts perdus dans mes agrafes. Et sa mère, au bout d'un moment, « Tu veux que je t'aide ? C'est la bonne taille ? Et tiens, essaye quand même cette jolie brassière. » Et elle, « Mais parle pas trop fort, maman !» toute rougissante dans la cabine. Et bon, pour finir, elle a réussi à chuchoter à sa mère que c'était moi qu'elle voulait et pas l'affreuse brassière d'à côté. Et sa mère, pensant peut-être qu'elle était trop vieux jeu, se souvenant peut-être avec émoi de son premier soutien-gorge, convaincue peut-être par mes smileys, a fait un grand sourire et elle a dit « Ok, on le prend ». Mais juste avant de se diriger vers la caisse, elle a dit à sa fille « Attends-moi ici une minute, tu bouges pas, je reviens tout de suite ». Et elle a galopé chercher ma frangine 95D en tulle transparent. Et donc maintenant, on partage la même commode dans la salle de bain. Elle, dans le tiroir du haut, dans un bazar de soutifs, de froufrous, de dentelles, de strings. Et moi, dans le tiroir du dessous, parmi les chaussettes blanches et les culottes à nœuds nœuds. Elle me parle de siestes coquines, de nuits folles, de salive, de doigts, de langue. Et moi, j'attends mon heure en vraie demoiselle, tout sourire, des sourires jaunes sur fond vert d'eau.
Vous le connaissez, Hervé Le Tellier, le petit soutien-gorge?
Un peu. Un peu.
Ouais.
Je suis Robert Ier.
Ah, oui, d'accord.
Je suis un des deux petits coussinets du soutien-gorge. Celui de gauche, pour être précis. Je suis pas bien gros, hein, vu que un coussinet, déjà, au départ, c'est un petit coussin, et que moi, je suis un petit coussinet. Mais bon, je crée du rêve, je suis de la pure anticipation, de la science-fiction, je suis en quelque sorte le Jules Verne de la poitrine adolescente, l'annonce glorieuse de la bonne nouvelle, je dis, je crie même, réjouissez-vous mes frères, réjouissez-vous, ô saints parmi les saints, car notre Seigneurie est descendue sur terre pour votre bonheur et c'est la puberté. Car où vont les saints du paradis, que la joie vous envahisse, car en vérité, je vous le dis, vous allez grossir, vous allez gonfler, vous allez vous épanouir, alléluia! Et un jour, moi-même, je serai inutile, puisque tel est mon destin, et même je serai gênant. Ce que je souhaite le plus, c'est de disparaître. Je suis aussi, je vous l'avoue, une espèce d'escroc, un attrape-nigaud. Certes, nous sommes deux complices, moi et Robert II, le coussinet de droite. Pas un pour rattraper l'autre, mais c'est tout de même un sale métier. Hein. On crée de l'illusion chez les garçons. Et donc, évidemment, à un moment donné, on va créer de la désillusion, de la déconvenue. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. La main est dans le sac, en quelque sorte. C'est ça, l'idée. Enfin, je dis, je suis le coussinet de gauche, mais bon, en fait, c'est pas si vrai que ça, parce que avec mon collègue, on est inversable. Bon, faut dire qu'on se décroche assez facilement, hein. Surtout au lavage. Et c'est comme ça qu'il y a deux jours, on a perdu Robert II. Le coussinet de droite, je vous l'ai dit, dans un cycle coton délicat, 30 degrés, essorage 600 tours, et personne, mais alors personne ne sait où il est passé. Ça, c'est le mystère total, hein, on a cherché partout. C'est moche. On était très proches, hein, on nous appelait Buvard et Coussinet. Bon, alors je sais bien que je vais passer à droite pour le remplacer, vu que c'est le côté où il y a, comment dire, un léger manque. Il y a comme une faiblesse, un léger flottement, on va dire. Enfin, c'est sans doute dû à un décalage de croissance, ça arrive. Hein. Bon, moi, ça ne me dérange pas de passer de gauche à droite, hein, c'est assez classique. Surtout que c'est pour... Je vous en prie. Surtout que c'est pour la bonne cause. C'est pour l'équilibre. Hein. Bon, j'espère que pour la proprio, ça ne va pas rester comme ça, parce que bon, on peut aimer les gros seins et les petits seins, mais un petit et un gros... Bon, le boulot, vous allez me demander comment ça se passe? Ben, c'est plutôt sympa, hein. Entre la peau et la robe, j'ai un côté qui sent le savon au chèvrefeuille et l'autre qui sent la lessive. C'est la belle vie. Bon, évidemment, c'est clairement un CDD, hein. Mais bon, j'étais prévenu dès le départ. Bon, d'ailleurs, depuis deux, trois semaines, je sens bien que je suis à l'étroit. C'est la fin. Bon, on a été formés pour ça, hein. C'est notre destin. Servir jusqu'à la mort, c'est notre devise. Et vous savez quoi? C'est notre plus beau dessin.
Vous êtes sur France Culture avec les papous dans la tête, spécial festival longueur d'onde, et c'est le moment de passer à la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque des papous dans la tête, il y a énormément de livres, suffisamment pour que Lucas Fournier, qui est un grand, un bon, un solide lecteur, ait eu envie de s'asseoir et de feuilleter les uns après les autres certains livres pour y chercher un petit bout de littérature à soumettre à trois experts. Dominique Muller, Hervé Le Tellier, Jean-Bernard Pouy qui devront répondre aux questions qu'on se pose quand on vous soumet un petit bout de texte, comme ça, une quinzaine de lignes, une minute dix, à l'aveugle, sans donner aucune précision. Donc répondre aux questions du genre quelle est l'époque d'écriture, est-ce que c'est écrit directement en français ou est-ce que c'est une traduction, etc., etc., jusqu'à donner un nom d'auteur possible. Et au deuxième tour, en seconde chance, il n'y en aura pas de troisième, Lucas Fournier leur proposera le choix entre trois noms. Évidemment, je vous demanderai votre avis dans la salle, mais attention, on ne répond que si on ne connaît pas l'extrait en jeu. Ça n'a pas d'intérêt de dire qu'on se souvient de tel ou tel passage. Non, il faut avoir des arguments pour expliquer pourquoi c'est tel ou tel autre auteur. On écoute Lucas Fournier.
Ils avaient parlé de choses et d'autres et évoqué des souvenirs de Grèce. Le soir, elle avait vomi son dîner. Elle ne s'était pas levée le lendemain, ni le jour suivant, terrassée par une galopade d'images et de mots qui défilaient dans sa tête, se battant entre eux comme des cris malais dans un tiroir fermé.
Attendez, est-ce que vous avez distribué le texte
non,
à vos camarades? Ah ben s'il vous plaît, oui, oui, qu'il l'ait sous les yeux pendant la lecture.
Oui, mais les auditeurs n'ont pas le texte non plus.
Oui, je sais, je sais.
Il faut un peu rétablir une égalité républicaine
une
dans cette émission.
Hein,
parce que là.
Alors, nous en étions donc au Chris Mallet. Oui, allez, refaites-le.
Depuis le début. Vous avez une deuxième chance. Hein.
Oui.
Ils avaient parlé de choses et d'autres et évoqué des souvenirs de Grèce. Le soir, elle avait vomi son dîner. Elle ne s'était pas levée le lendemain, ni le jour suivant, terrassée par une galopade d'images et de mots qui défilaient dans sa tête, se battant entre eux comme des cris malais dans un tiroir fermé. Si on l'ouvre, tout est en ordre. Elle ouvre le tiroir. Je suis tout simplement jalouse. Œdipe mal liquidée, ma mère demeurant ma rivale, Électre, Agamemnon. Est-ce pour cela que Mycène m'a tant émue? Non, non, Bilvesée. Mycène était belle, c'est sa beauté qui m'a touchée. Le tiroir est refermé, les cris se battent, je suis jalouse, mais surtout, surtout, elle respire trop vite, elle allaite. Ce n'était donc pas vrai qu'il possédait la sagesse et la joie et que son propre rayonnement lui suffisait. Ce secret qu'elle se reprochait de n'avoir pas su découvrir, peut-être qu'après tout, il n'existait pas. Elle le sait depuis la Grèce. J'ai été déçue. Le mot la poignarde. Elle serre son mouchoir contre ses dents comme pour arrêter le cri qu'elle est incapable de pousser. Je suis déçue. J'ai raison de l'être. Tu n'imagines pas le plaisir que ça lui a fait. Et lui, elle me comprend mieux qu'autrefois. Il s'est senti flatté. Flatté, lui qui regardait le monde de si haut, avec un souriant détachement, lui qui savait la vanité de toute chose et qui avait trouvé la sérénité par-delà le désespoir. C'est facile.
Il y avait une qualité de silence pour vous écouter, Lucas Fournier. Alors, je précise qu'elle allaite, ça vient du verbe haleter et non pas
oui,
de
haleter. Rien à voir avec
on n'est plus, non, on n'est plus dans l'histoire de la vache de Duras, c'est de la seconde maman. Voilà. Est-ce que vous avez une première impression comme ça? Je ne pose pas encore de questions trop précises, Dominique Müller. Une impression.
Ma première impression, c'est qu'il y a un monde fou là-dedans. Des dames, des messieurs, là. Et que les tiroirs sont drôlement mal rangés.
Oui,
c'est ça ma première impression.
Oui, oui. Hervé Le Tellier.
Il y a de beaux allers-retours entre une narration en il, elle, et puis des allers avec le jet qui apparaît, qui donne une certaine contemporanéité au texte.
Mais c'est pas facile à prononcer.
Non, je le dirai qu'une fois. Donc, contemporanéité. Et donc, c'est un texte récent, parce que cet aller-retour est très moderne. Voilà, je dirais ça, et puis je dirais peut-être d'autres choses un peu moins intéressantes encore après.
D'accord. Alors, je précise que j'attends de vous trois une analyse littéraire,
oui,
si possible.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
Jean-Bernard Pouy.
Mais c'est très étrange, il y a un mélange de styles. Il y a vraiment un peu quelque chose qui est basique. Je dirais pas vulgaire, mais basique. Le soir, elle avait vomi son dîner. Bon. Et puis, juste après... On parle de Chris Mallet dans les tiroirs fermés, quand on l'ouvre, tout est en ordre. Il y a une espèce de précision un peu, presque poétique, qui concerne. Et alors en même temps, il y a une espèce d'analyse de ce que peut être la révélation d'une jalousie ou autre. Mm-hmm. Mais alors, il y a des phrases qui sont pas possibles, quoi. Alors, elle respire trop vite, elle allaite.
Enfin, bah, bon. Ça passe peut-être pas très bien à l'oral, soit... oui.
J'aurais préféré que ce soit à lettre écrit autrement, quoi. Bon, parce que
d'accord.
Un
d'accord.
peu plus marrant, quand même. Bon. Mais alors, il y a la Grèce. Il y a aussi, on dirait que c'est un auteur qui a été en Grèce plein de tout ce qu'on pouvait raconter sur ce pays et qui est un peu plaqué, là.
Bon. Jean-Bernard Pouy, on va maintenant poser des questions plus précises. Dominique Muller, est-ce que vous êtes d'accord avec Hervé Le Tellier sur l'aspect très contemporain de ce fragment de littérature?
Du point de vue stylistique, oui, mais du point de vue du fond, pas tellement. Je suis plutôt d'accord avec Jean-Bernard, parce que le côté mi-scène était belle, plus personne n'y va. Enfin, je veux dire, il y a un côté vacances.
Ah bon,
bah, oui, c'est vrai. Maintenant, les gens vont dans des clubs, dans des îles. Je veux dire, ça ne fait plus partie de l'imaginaire de la Grèce, quoi. On a le sentiment que c'est un voyage de vacances. Mais très, très culturel. Enfin, je vois ça dans les années 50, moi, plus exactement.
Oui.
Je vois, en 1950, voilà. Et du point de vue stylistique, je me demandais qui était ce jeu, qui est d'ailleurs au féminin. Et
oui.
J'en ai déduit que c'est une adolescente qui s'exprime. Et moi, je vois une adolescente regardant la nouvelle épouse de son père. D'où le côté aussi tragédie grecque, n'est-ce pas?
Ah.
Et donc, ils ont emmené cette jeune fille
en voyage,
en vacances,
c'est gentil,
voilà.
Oui.
Mmh. Voilà. Et c'est pour ça aussi, je comprends mieux une phrase aussi, aussi triviale que le soir, elle avait vomi son dîner. C'est dit avec une espèce de joie, quoi. Elle s'était pas levée le lendemain. C'est-à-dire qu'on sent la nouvelle épouse, une jeune femme aguicheuse, etc., l'adolescente. Mais pourquoi je m'arrête pas de parler, moi?
Non, mais non. Je vais vous dire...
Parce qu'on t'écoute.
C'est... Enfin, ouais. C'est une jeune fille qui a un soutien-gorge 80A, comme nous disait Violaine tout à l'heure, c'est ça?
Et naturellement, elle est amoureuse, oui. Elle, de son père, n'est-ce pas?
Ah bon, bon, voilà. Bon. Alors, on progresse quand même
ce
beaucoup
qui est tout à fait
avec
logique.
Dominique.
Alors, il y a quand
oui.
même une...
Hervé Le Tellier.
Il y a une marque d'époque, quand même, parce que Dominique a raison, c'est 50-60, c'est-à-dire que j'ai été déçu. Déçu est en italique.
Oui, absolument.
Et voilà. Oui. Et de même que flatté, lui qui regardait le monde, flatté est également en italique. Oui. Ça correspond quand même à des moments de la littérature dans lesquels on se dit, lecteur, fais bien attention. Je souligne déçu. Lecteur, fais bien attention. Je souligne flatté. Donc c'est une sorte de distanciation brechtienne par rapport au texte complètement oublié que plus personne n'ose
oui.
faire. Aujourd'hui, maintenant, on part du principe que le lecteur sait lire. Donc c'est l'arrivée du poche. Une nouvelle population, 58, qui arrive et qui découvre des livres. Donc, il faut lui marquer des italiques pour qu'elle sache bien que c'est... Il faut faire super attention. Donc, voilà, je dirais que c'est vraiment... Soit peut-être mars 59, peut-être.
Ah, très bien.
Je suis d'accord.
Voilà.
Très bien. D'accord avec les deux, Jean-Bernard Pouy, sur l'époque?
En gros, oui. Surtout que c'est moi qui ai commencé. Donc, il y a des trucs qui sont plutôt d'expression moderne. L'Œdipe mal liquidé. Ça, l'Œdipe mal liquidé, je vois pas ça en 1950. Mais en revanche, 59. Bill Vesey, oui.
Ouais.
Mais vous savez,
donc il y a un mélange, je trouve. Alors, il y a quand même une phrase terrible que...
Une seule ?
Aucun écrivain ici présent, sauf un, pourrait écrire. Elle serre son mouchoir contre ses dents. Comme pour arrêter le cri qu'il est incapable de pousser.
Donc, très démodé aussi, ça.
Donc, il y a des choses extrêmement maladroites.
Alors,
mais
comme...
à mon avis, pas si maladroite que ça. Parce que je crois que c'est une écriture qui se situe dans un roman populaire. Enfin, c'est pas un roman pour vous. C'est un roman Jean-Marc Lévy, tout ça.
Vous pensez
Musso.
Que ça fait partie non, des non, lectures non. de Lucas non. Fournier, ça?
Absolument.
Ouais. Bon, je vous ferai quand même remarquer
non,
que...
Non, mais enfin, sérieusement, qui peut écrire dans un roman? Aujourd'hui, les Chris Mallet. C'est les poignards qui sont en tortillon, comme ça. Et il y a beaucoup d'auteurs de polars qui sont gourés, qui ont toujours écrit ça, les Chris Maltais. Alors,
oui, comme les faucons malais.
Comme les faucons malais. Voilà.
C'est depuis Amok de Tsvaï.
Mais le Chris Malais, vraiment, Amok, ça fait très très longtemps qu'on n'écrit plus ça, quoi. Enfin,
surtout qu'un Chris, est toujours malais. Hein, oui. Donc c'est quand même un peu didactique.
Oui.
Hein, le Chris breton, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Bon.
C'est une traduction ou c'est écrit directement en français, Dominique Müller?
Je dirais en français directement.
Oui. Oui.
Il y a
oui.
des éléments
à
qui vous permettent de
deux choses
lire.
Et d'autres, il y a quand même un certain nombre d'expressions qui sonnent assez français. Parce que c'est d'ailleurs grammaticalement assez simple, en fait. En dépit du côté un peu ampoulé de ce que ça dit, je renchéris sur Jean-Bernard, il y a une phrase aussi un peu ridicule. Ce n'était donc pas vrai qu'il possédait la sagesse et la joie et que son propre rayonnement lui suffisait. Vous vous voyez placer ça dans une conversation? Franchement, non. C'est ampoulé, quoi.
Oui, et puis il y a un point d'exclamation.
Oui.
Voilà. En théorie, il ne faut jamais utiliser dans un roman de point d'exclamation.
Pourquoi ?
Bon, parce que ça fait quand même beaucoup. C'est un signe un petit
oui,
peu.
Oui, c'est appuyé, quoi. C'est comme bah, les
italiques. Hein.
C'est comme un smiley. C'est parce qu'on n'arrive pas à dire que c'est drôle, alors on met un petit truc derrière pour dire fais gaffe, j'ai essayé d'en faire un truc drôle. J'avais pas vu que c'était drôle, donc le smiley vous indique. Non, le point d'exclamation est inutile. Et puis, le mot la poignarde.
En fait, on dirait presque un scénario, justement. Mm. Moi, je vois très bien Elizabeth Taylor, la nouvelle épouse.
Ah oui.
Et comme jeune, je ne sais pas, je vous dirai tout à l'heure.
Je pense que c'est sans doute un auteur majeur qu'on est en train d'assassiner.
Donc, et d'ailleurs, ça peut être très bien, justement, type comme Chandler,
soit totalement ridicule, c'est sans doute un auteur majeur qui a choisi ce garçon. Et voilà.
Mais donc, Dominique, vous êtes
donc,
dans le cinéma.
C'est Yourcenar, donc voilà.
Pas de nom encore, Hervé Le Tellier. Dominique, vous êtes plutôt avec Elizabeth Taylor dans le cinéma américain,
oui,
alors que vous défendez le côté
français. Beaucoup
d'auteurs
majeurs ont écrit pour le cinéma, justement.
Oui, d'accord, on exclut le cinéma français, là.
Non, on ne l'exclut pas.
Jean-Bernard Puy, c'est une traduction ?
Oui, moi je crois que c'est une traduction.
Oui, justifiez-vous.
Je crois que c'est une traduction, et puis je crois que c'est une traduction de l'anglais. Parce qu'il y a cette passion complètement... un peu crétine pour la Grèce. Et donc, tout ce qu'elle cite de la Grèce, Électre, Mycène était belle, sa beauté qui m'a touché. Bon.
Agamemnon.
Agamemnon, Électre, Œdipe, ça c'est normal, tout le monde connaît. Mais il n'y a aucun effet vraiment un peu plus littéraire. Et puis, il y a des choses dans le style qui font penser à quelque chose qui n'est pas issu directement du français. Et lui, deux points. Ça se fait depuis que les auteurs français lisent des romans américains. Donc, pour éviter de faire des dialogues normaux, ils mettent « et elle » et « lui ». Bon. Et lui, elle me comprend mieux qu'autrefois. Il s'est senti flatté. Je sens quelque chose d'anglais. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais c'est un truc très fin qui existe un peu dans l'air, comme ça, qui vient.
Est-ce que dans la salle, vous êtes plutôt favorable à un texte écrit directement en français? Oui, pas beaucoup. Un texte écrit dans une autre langue et traduit? Qui ne se prononce pas?
Ni l'un ni l'autre.
La majorité. Bon, on est partagé encore à de l'expertise. Oui, Hervé Le Tellier.
Moi, c'est le mot déçu. Parce qu'en anglais, quand même, c'est disappointed. C'est un peu long pour être poignardé par disappointed. C'est... déçu encore, ça fait mal, mais il y a quatre syllabes quand même, donc ça, on n'est pas poignardé par un mot à quatre syllabes. Deux, trois maximum, mais à quatre, on est écorché, on n'est pas poignardé, c'est trop long.
C'est ce qu'on appelle un argument littéraire.
Ah bah oui.
Mais oui,
j'essaie de réunir le signifiant et le signifié dans un concept global. Je ne veux pas faire plus littéraire que ça.
Ça se trouverait dans quel genre d'histoire, Jean-Bernard Puy? C'est un roman, c'est une petite nouvelle?
Oui, je crois que c'est un... Non, c'est plutôt un roman...
Ça peut être des souvenirs aussi.
Oui, puis c'est un roman en même temps de voyage, en même temps où il s'est passé quelque chose peut-être de grave, ou en même temps quelqu'un demande, essaie de refaire la vie de tous les protagonistes. Enfin bon, vous m'avez compris, parce que j'ai déjà le nom...
Ah non,
mais
trop tôt.
On sent que c'est quelqu'un qui va petit à petit découvrir ce que peut être la psychologie des gens, et ce qui va faire chier tout le monde, enfin bon, ça c'est un autre problème, mais elle le sait depuis la Grèce, donc c'est aussi un personnage féminin qui dans ce genre de roman est toujours problématique, surtout les romans anglais. On ne sait jamais si c'est quelqu'un de sérieux ou si c'est une tueuse improbable. Enfin bon.
Bon, Dominique Müller, ça se trouve où, ça?
En effet, il y a aussi, il pourrait y avoir une ambiance à la Rebecca, avec quelqu'un de très complexé, évidemment, par une jolie maison, par des gens très à l'aise, par cet homme qu'au fond, on ne voit qu'en creux dans ce texte. Cet homme qui semble avoir beaucoup d'importance pour les deux personnes, pour les deux femmes. C'est lui qui est le intrigant dans cette histoire, en fait.
Ouais.
Voilà. On se demande qui il est, qui ce qu'il fait là-dedans, voilà.
Hervé Le Tellier, vous voulez... Oui, Jean-Bernard Pouy veut ajouter quelque chose avant qu'on réécoute le texte.
Il y a cette dernière phrase qui est quand même terrible. Lui qui regardait le monde de si haut avec un souriant détachement, lui qui savait la vanité de toute chose et qui avait trouvé la sérénité par-delà le désespoir.
Ouais. C'est peut-être le Dalai Lama.
Non, mais il faut quand même...
Qu'est-ce que vous reprochez à cette phrase?
Ben, il faut avoir un certain moral pour parvenir à écrire ça quand même. Sans faire rigoler tout le monde. Donc,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, on réécoute ce texte. Lucas Fournier, mettez-y tout votre cœur, défendez-le bien. Oui.
Ils avaient parlé de choses et d'autres et évoqué des souvenirs de Grèce. Le soir, elle avait vomi son dîner. Elle ne s'était pas levée le lendemain, ni le jour suivant terrassée par une galopade d'images et de mots qui défilaient dans sa tête, se battant entre eux comme des chrismalets dans un tiroir fermé. Si on l'ouvre, tout est en ordre. Elle ouvre le tiroir. Je suis tout simplement jalouse. Œdipe mal liquidée, ma mère demeurant ma rivale, Électre, Agamemnon. Est-ce pour cela que Mycène m'a tant émue? Non, non.
Non, mais vous le dites en le ridiculisant.
Il faisait.
Laissez la magie du texte opérer. Ouais.
Mycène était belle. C'est sa beauté qui m'a touchée. Le tiroir est refermé, les crises se battent. Je suis jalouse, mais surtout, surtout, elle respire trop vite, elle allaite. Ce n'était donc pas vrai.
Allaite. Aspirez-le. Je vous le fais.
La magie, c'est difficile. Hein. Ce n'était donc pas vrai qu'il possédait la sagesse et la joie et que son propre rayonnement lui suffisait. Ce secret qu'elle se reprochait de n'avoir pas su découvrir, peut-être qu'après tout, il n'existait pas. Elle le sait depuis la Grèce. J'ai été déçue. Le mot la poignarde. Elle serre son mouchoir contre ses dents comme pour arrêter le cri qu'elle est incapable de pousser. Je suis déçue.
Mais c'est un réflexe normal, je trouve, non?
J'ai raison de l'être. Tu n'imagines pas le plaisir que ça lui a fait. Et lui, elle me comprend mieux qu'autrefois. Il s'est senti flatté. Flatté, lui qui regardait le monde de si haut avec un souriant détachement, lui qui savait la vanité de toute chose et qui avait trouvé la sérénité par-delà le désespoir.
Bah oui, il l'a bien lu. Hein. Dominique Müller, vous êtes romancière, vous avez de l'imagination. Comment ça se poursuit, cette histoire? C'est au début, c'est au milieu, c'est vers la fin? Ils vont se séparer, ils vont s'aimer, enfin, je sais pas.
Je ne suis pas certaine que ce soit un roman à la relecture. Non. Je me demande si ce ne sont pas de très vagues souvenirs, comme dit Hervé, d'un grand auteur, voilà.
Qui raconte sa vie au soir de ses jours.
Voilà, au fond, il n'y a que les grands auteurs qui peuvent se permettre d'écrire des phrases aussi niaises, n'est-ce pas? Oui. Avec le plus grand sérieux, évidemment.
Bon, Jean-Bernard Pouy, défendez ce texte. Est-ce que vous avez envie de le lire, de lire l'ensemble?
Non, le défendre, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a des choses assez intéressantes. Il y a les changements de point de vue au milieu qui font un peu moderne l'histoire des chrismalets dans le tiroir fermé. Si on l'ouvre, on change de point de vue. Elle ouvre le tiroir, je suis tout simplement. Et donc elle parle par le biais de cette ouverture de tiroir.
Ouais. Alors, et alors?
Bon, alors tout ça, c'est bon, c'est intéressant. Enfin, c'est quand même, c'est quand même au service d'une psychologie de bazar, quand même, un peu lamentable. C'est là où je reconnais un écrivain anglais, en général.
Est-ce que ça pourrait être un pastiche, Hervé Le Tellier?
Ah non, je crois pas.
Non.
Je pense pas.
La personne qui a écrit ça l'a écrit en toute sincérité.
Oui. Non, c'est écrit avec une authenticité réelle. Le Bivezé m'étonne toujours. Je pense que un traducteur récent aurait mis Foutaise, parce que vraiment Bivezé, c'est. Foutaise, c'est presque un mot naturel, alors que Bivezé, ça sent un peu. Vous voyez, c'est comme, je sais pas moi,
Ça ne vous est pas naturel à vous, c'est vrai, Bivezé.
Personne d'entre nous. Naturel à personne. Vous imaginez, à table, oh, bivezé.
Bah, ce serait non. Très chic.
Ah oui, ce serait très chic, oui. Ouais. Mes amis se moqueraient. Mais alors que foutaise, bon, ça passerait assez bien. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte... Quand j'ai dit 1950, c'est même un moment où on ne traduit plus comme ça, où c'est un vieux traducteur. On ne parle jamais de l'âge du traducteur. Mais c'est important aussi.
Moi, je voudrais dire quand même, parenthèse, un petit mot, il y a des traducteurs 57. Formidables et heureusement oui. Qu'ils existent.
Mais
autrement,
absolument.
Les trois quarts de la littérature nous seraient inconnus.
Oui. Peut-être même les 9/10e.
C'est possible, oui.
En tout cas, aucun écrivain vivezé, après 57.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de lâcher des noms, Dominique Müller?
Il est diabolique, Lucas, parce que c'est
en
c'est même temps...
En fait, c'est Nabokov, donc... On...
Voilà, mais en même temps, ça
pas
fait
encore
appel...
les noms, pas encore les noms. Oui,
ça fait appel à tellement de clichés que ça pourrait aussi être... On peut justement lancer n'importe quel nom, Nabokov, Henry Miller, parce que chez la Grèce, oui. Cocteau, parce qu'il y a des gens jaloux, des adolescents, des machins. Ça pourrait être à peu près de n'importe... Voilà, ça
de
peut
n'importe
être de n'importe qui.
D'accord.
C'est ça, le fruit de ma réflexion.
Hervé Le Tellier, un dernier mot.
Voilà. Non. Non, maintenant, je pense qu'il est temps de lancer des noms au hasard.
Alors, attendez, je demande quand même à Jean-Bernard Pouy.
Pardon.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Il fait son courrier.
Non, à rajouter.
Une carte postale.
Rajouter, pardon, je crois que c'est un roman parce que je pense sincèrement que c'est une enquête et le début d'une enquête, et une enquête un peu plus intéressante que d'habitude avec questions-réponses. C'est plutôt quelqu'un, celui qui enquête, regarde ceux sur lesquels il doit enquêter. Mais enfin, il regarde d'une manière un peu brutale, hein, parce que qu'est-ce qui reste? Electre, Agamemnon et Oedipe, alors bon...
C'est l'essentiel, hein.
Oui.
Je crois pas vraiment.
Ah bon? Question de point de vue.
Oui, c'est une question de point de vue. Mais parce que c'est une question d'histoire familiale, je sais pas, enfin, on sait pas trop, mais je pense plutôt à ça.
Bon, est-ce que vous avez des noms à proposer? Après, je vous demanderai dans la salle des noms aussi. Hein. Préparez-les dans vos têtes. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par nos trois experts, parce que il leur arrive de trouver. Mais quand même, si vous êtes auditeur, vous devez savoir qu'il leur arrive très souvent de se tromper. Dominique Müller, un nom.
Eh bien, j'espère en tout cas ne pas me tromper sur l'époque. Donc, je vais donner un nom... J'hésite entre deux, mais un.
Oh bah vous avez le droit de. Parce que c'est extrêmement difficile
les
aujourd'hui.
Les deux noms sont des auteurs qui ont tous les deux écrit en français et en anglais. Ah. Et je citerai donc Julien Green, monsieur très sérieux, oui. Qui a écrit des mémoires très très précises, mais aussi qui n'hésite pas sur ce genre de phrases. Oui. Et Yourcenar. Oui.
Ah, donc parler Hervé Le Tellier, il y a une dame qui dit oui, oui.
Bah oui,
c'est... Bah oui, on y pense, enfin on y pense.
On y
pas
pense
forcément,
pense
hein.
Pas tout le temps.
Je laisse tomber Yourcenar, je dis Julien Green, voilà.
Uniquement.
Oui.
Bravo. Un seul choix, c'est très très courageux, Dominique. Bravo.
Ou peut-être grave Green.
Non. Ah, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas pareil.
Mais bon. Ça prend un nœud.
Jean-Bernard Pouy, un nom.
Julien Green.
Vous aussi?
Non, pas du tout. Non.
Ah bon?
Plus personne lit Graham Greene à la rigueur, mais Julien, non. Non, moi je pense que c'est Agatha Christie.
Ah oui, vous parliez d'une enquête.
Et puis après, avec ce côté, tout ça. Et puis ce côté passion pour l'archéologie.
Et alors, lui qui savait la vanité de toute chose et qui avait trouvé la sérénité par-delà le désespoir, c'est Poirot?
C'est Poirot ou Miss Marple? Qu'est-ce que vous avez contre les poireaux
Non, j'ai rien
de pêche plutôt.
Je vous signale que le poireau est l'emblème du Pays de Galles.
Oui, absolument.
Donc, il ne faut pas s'en moquer. Non, parce qu'au début, j'avais pensé un peu à Laurence Durrel. Mais il me semble que Laurence Durrel est plus intéressant.
Ça ressemble beaucoup.
Il écrit mieux quand même.
D'accord. Non,
je pense que c'est Agatha Christie qui disait cette phrase extraordinaire, qui disait « Épousez un archéologue, quand vous serez vieux, il s'occupera de vous.
» Tout ça pour ça.
Ouais, que vous serez vieille,
tout
pardon.
Tout ça pour ça.
Tout ça pour amener ça.
Il l'a mûri tout au long de la séquence, Jean-Bernard Pouy. Hervé Le Tellier, votre point de vue. Alors, vous aviez prononcé le nom d'Yourcenar
oui,
au début.
Oui, et Nabokov même. Oui.
Vous avez le droit de changer d'avis aussi.
Oh bah oui, je vais dire Philippe Solers. Comme ça, je suis sûr de changer de coup au deuxième. Donc, je vais dire Philippe Solers.
Très bien, mais pourquoi
genre
pas
Le Parc, un de ses premiers romans. C'est pas à ce roman-là que je pense, c'est à celui d'après.
Oui.
D'abord parce qu'il a une tendance à mettre de l'italique.
Oui, c'est vrai. Ah bah, pas le seul.
Non,
mais c'est bien.
Et puis, bon, Bigevesé, ça me déplaît pas. Je trouve ça assez Saint-Germain, finalement. Années 60, Bigevesé.
Nous avons donc un Julien Green pour Dominique Muller, une Agatha Christie pour Jean-Bernard Pouy, un Philippe Solers pour Hervé Le Tellier. Y a-t-il des noms dans la salle ? Donc, encore une fois, vous ne jouez que si vous ne connaissez pas l'extrait en question.
Je vois pas qui le connaîtrait.
Allez-y.
Émile
Ajar. Nabokov, à ma droite. À ma gauche, il y a quelque chose. Il y avait un Yourcenar.
Jules Verne, là-bas.
Non, il n'y a que deux personnes dans la salle qui se prononcent. C'est pas possible.
Hein? François Fillon.
Alors, c'est tout ? Pardon ? Houellebecq ?
Oh non.
Oh. Non. Enfin, non, je dis rien, moi, c'est votre choix. Hein. On s'arrête là ?
Kerouac.
On a un peu de tout, quand même, c'est intéressant.
Oui,
c'est,
l'éventail est très large.
Alors, on va demander à Lucas Fournier si quelqu'un, dans un premier temps, a gagné. Vous avez les noms sous la main. Avant de nous donner les trois noms, dites-nous si quelqu'un a gagné au premier tour.
Alors,
oui.
À la tribune, oui. Personne n'a gagné.
Oui.
Et dans la salle, personne.
Mais c'était bien de participer. Oui, voilà. Attendez, vous aurez une deuxième chance parce que voilà, il y a les trois noms maintenant.
Les trois noms sont là depuis le début de l'émission.
Ouais.
Dans l'ordre alphabétique, Aragon, Beauvoir, Freud.
Alors, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, je rétablis les prénoms quand même, et Sigmund Freud. Qui veut argumenter quand il ne s'agit pas de dire c'est un tel comme ça. Non, il faut un petit argument pour Dominique Muller.
Eh bien. Ça pourrait être les trois. Est-ce qu'ils ne sont pas partis tous les trois en voyage en Grèce ? Quelque chose, ça m'arrangerait bien.
Ils étaient en charter ensemble. Oui.
Eh bien, je vais me lancer, puisqu'il le faut. Je vais dire Freud.
Et pourquoi ?
Parce que, d'abord, ça tombe sous le sens à cause des complexes des machins, mais on imagine très bien qu'il écrive sur, justement, la propre enfance de sa pensée. Quoi. Le fait d'observer des gens, aussi le fait presque clinique du vomir le dîner, la galopade, bah oui, c'est un médecin quand même, la galopade d'images et de mots, ça se tient, disons.
Ah oui, Oedipe mal liquidé, Freud.
Bah justement, c'est bien pourquoi je dis allons au plus facile, n'est-ce pas ?
Mais il dans ces pas. Cas-là, c'est une traduction.
Il n'avait pas encore appelé ça le complexe d'Oedipe, ça lui est venu juste quelques pages plus loin. Voilà, par exemple.
C'est très bien argumenté, oui. Dominique. Jean-Bernard Pouy, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud. On est très loin d'Agatha Christie.
C'est pour ça que je reste sur une femme, je pense à Beauvoir, moi, plutôt.
Oui, alors un argument pour...
Ah ben, les arguments, il n'y en a pas. Il y a des choses... je pense qu'Oedipe mal liquidé, c'est plus Beauvoir qu'Aragon. Dans le sens où... c'est un peu... Elle a commencé à connaître son Américain, là, Nelson Algren, donc elle s'éclate. Elle a oublié le bigleux, donc tout ça, c'est... Et en même temps, elle juge le monde. Elle regarde le monde, tout ça. Et elle les trouve pas terribles, quand même. Alors, Bivesé, ça... Alors, pff, mais en même temps...
Non.
Aragon non plus, enfin bon...
Alors
donc, un
je crois moi à Beauvoir, oui.
Pour Jean-Bernard Pouy, courageux.
J'aimerais Beauvoir que ce soit elle, quand même.
Hervé Le Tellier.
Moi, je dirais, presque avec certitude, mais Aragon. En fait, j'avais pensé à Drieu La Rochelle... À un moment donné.
Pourquoi vous ne l'avez jamais
Parce que je trouvais plus drôle de dire Philippe Solers. Donc voilà, on m'aurait proposé Drieu, j'aurais dit Drieu. Mais entre Drieu et Aragon, il y a beaucoup de similitudes, en fait, plus qu'on croit.
Stylistique,
oui, assez forte. ils étaient amis, d'ailleurs. Bizarrement, quelque chose les a séparés pendant la guerre, je sais pas quoi. mais je pense que c'est Aragon. Ça pourrait être un texte qui, à ce moment-là, est antérieur, genre un texte de après les cloches de Bâle. J'ai pas l'idée des
d'accord,
romans d'Aragon.
Non, mais vous n'êtes pas obligé de trouver l'œuvre, hein, juste l'auteur.
Non, ce serait bien.
Alors,
Aragon.
Aragon. Dans la salle, vous allez voter, vous dites oui.
Est-ce que je peux ajouter quelque
oui,
chose?
Oui, Dominique.
Bien sûr, je dis Freud aussi parce que ça a l'air d'un piège gros comme une maison. Donc je le mets au deuxième rebond par ricochet. C'est peut-être lui quand même. D'accord.
Tellement
très bien. Alors dans la salle, qui vote pour Freud? Enfin, vous dites moi. On va dire ça.
Eh bien, il n'y a que moi.
Personne?
Trois personnes.
Allez.
Moi.
Deux, trois. Oui, vous êtes trois.
Ton succès n'en sera que plus.
C'est bien, vous êtes courageux, mais vous allez avoir la gloire, juste pour vous quatre, avec Dominique. Qui vote pour Simone de Beauvoir?
Oui.
Oh. Vous avez été influencé par Jean-Bernard Pouy?
Non.
Oui.
Un peu quand même, non?
Ah, si.
Non? D'accord. Et qui vote pour Louis Aragon? Ah, il y a quand même pas mal d'Aragon, hein. Aragon, Beauvoir. Bon. Alors, écoutez, nous avons donc, si on résume la situation, un Sigmund Freud pour Dominique Müller et 3-4 personnes.
Merci d'avoir.
Un Simone de Beauvoir pour Jean-Bernard Pouy et pas mal de gens. Évidemment, il y en a énormément qui ne disent rien. Parce qu'ils ont peur de perdre, mais vous savez...
Ils ne sont pas obligés de...
Voilà,
bah oui.
C'est un jeu où il faut mettre son amour-propre de côté. Et Aragon, bah, c'est le choix d'Hervé Le Tellier et de quand même pas mal de gens dans la salle. Il y a forcément des gagnants, Lucas Fournier. Alors.
Alors, le passage que je vous ai lu se trouve dans les toutes dernières pages d'un roman publié en 1966 par Simone de Beauvoir. Je suis stupéfait qu'un tiers de la salle ait lu ce roman ici. Et donc, il est peut-être inutile que je vous raconte l'histoire, puisque vous l'avez lu.
Non, mais donnez-nous le titre au moins.
Donc, Les belles images. Et c'est une sorte de Madame Bovary de 1966. Donc, elle travaille dans la publicité. Elle a un mari pas terrible, mais riche et architecte. Un amant encore moins terrible qui travaille avec elle dans la pub. Une fille de 10 ans qui a des états d'âme. Elle a des difficultés avec son propre père et sa propre mère. Et elle part en voyage avec son papa en Grèce. Et elle raconte son retour de voyage de Grèce. Et alors, il y a que deux personnages dans l'histoire. Parce que de temps en temps, elle écrit au « elle » et d'autres fois, elle écrit au « je », mais c'est toujours « elle ». Voilà.
Et que donc, viennent faire les Chris Mallet dans cette histoire?
Alors c'est inexplicable, galère. C'est absolument inexplicable, parce que la seule chose dont on parle dans le livre, c'est l'Express, parce que tout le monde lit l'Express, et ensuite émet quelques propos et quelques considérations sur l'état de la civilisation et de la société contemporaine. Donc c'est assez intéressant pour comprendre la France des années 66 de lire ce livre. D'autant qu'il y a une grande partie sur ce que sera la France en 1990, parce que c'est leur principal sujet de conversation. Donc,
ouais.
Entre des cocktails mondains et des week-ends à la campagne dans les maisons des uns et des autres, on discute de l'avenir de la France et tout ça. Et puis, on a les états d'âme de cette héroïne qui est finalement très malheureuse et qui est mal dans sa peau. C'est sa crise de la quarantaine. Voilà. Ça s'appelle Les belles images. Ça existe en folio. C'est en vente ici à Brest. Je l'ai trouvé ce matin encore.
Nous vous engageons.
Ça fait 198 pages. Voilà.
Alors. Ben, bravo Jean-Bernard Pouy, vous ne l'avez pas trouvé du premier coup, mais quand même, et bravo à vous dans la salle.
Ça arrive une fois tous les 22 ans.
Non. Dominique
Müller. On est dans le 22.
Ouais, je voudrais remercier les personnes qui vont se...
Ah.
Et nous n'avons plus qu'à serrer notre mouchoir pour étouffer le cri que nous ne voulons pas lancer.
Mais vous reviendrez, Dominique. Et puis, c'était bien de participer. C'était très bien argumenté, votre Freud, moi, je trouve. Et puis, ne jetons pas la pierre à Hervé Le Tellier. Il a dit Aragon, il le pensait.
On sent l'influence de sa conversation et de ses débats avec Aragon. Honnêtement, dans ce texte, c'est net.
Très bien.
Vivezé, alors. Hein.
Oui, voilà, Vivezé, absolument.
J'avais quand même raison pour Saint-Germain-des-Prés. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est
vrai.
C'est mon point.
Oui.
Oui, c'est votre quartier, quoi, vous connaissez. On va s'intéresser au dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour des papous dans la tête. Hein, 12h50. Et enfin, il n'y a pas que midi 50 qui sont importants dans le dimanche. Tout le dimanche est un jour qu'on aime. Et j'ai demandé à Lucas Fournier de s'imaginer dans la peau de dimanche, parce qu'on a joué avec les jolis dimanches au cours des papous depuis un an et demi. C'était des pastiches, mais là, je voulais qu'on donne la parole au dimanche. Et donc, c'est vous, Lucas.
C'est une prosopopée.
Oui, absolument. Hein?
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et...
Dimanche.
Dimanche. Oui, dimanche, c'est moi. Bon, je m'attendais pas forcément à une standing ovation, mais enfin, au moins, un minimum de ferveur, hein.
Ouais.
Non, mais on ne m'aime plus comme avant. Non, je sais, vous préférez le samedi. L'amour déçu, c'est être lucide. Oui, le samedi, vous préférez le samedi, ou même le vendredi soir. Friday on my mind. You are excited with the Saturday night fever and you hate the bloody Sunday. Parce qu'autrefois, quand je me pointais, moi, le dimanche, ben, c'était l'engouement. La grasse matinée, les habits du dimanche, le brunch, les gâteaux chez le pâtissier. Attention, monsieur, prenez le paquet bien en dessous, c'est fragile. Le gigot flageolé chez belle-maman, la promenade en famille, Jacques Martin à la télé. Bonjour. Comment tu t'appelles? Et puis il y avait aussi la fête des mères, parce que je veux pas faire du chantage affectif aux mamans, mais la fête des mères, ben c'est toujours le dimanche. Et puis les élections. Ah, les belles soirées électorales du dimanche. Attention, dans 10 secondes, nous verrons apparaître le visage de celui ou de celle qui sera le 8e président de la République. Eh oui, tout ça, c'est moi, le dimanche. Le dimanche vivement enfile à nos gens, alors brusquement, tout paraît changé. Ouais, enfin, tout est changé, justement.
Oui.
Je sens bien votre réticence, là, votre désamour. Mais si c'est fini entre nous, vous le dites, on est adulte, hein. On se dit les choses. Moi, j'ai 1695 ans. Depuis Constantin Ier, je suis jour de repos hebdomadaire. Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus, qui fut empereur ici chez les Bretons en 306. Aujourd'hui, tout se défait si vite. Alors, 1695 ans de fidélité au dimanche, c'est beaucoup. Vous et moi, on n'a plus grand-chose à se dire. On s'est aimé comme on se quitte, sans même songer à demain qui vient toujours un peu trop vite. Oui, je sais qu'on s'ennuie le dimanche, mais c'est vrai que le lundi, on rigole tellement. Hein. Comme le notait le poète Claudius Franciscus, Dies lunae cum sole est res non visibilium. Bon, vous êtes des latinistes. Pour Jean Bernard, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Mais vous croyez que c'est facile d'être dimanche tous les jours? Je me regarde dans le calendrier et parfois je me demande qui je suis. Le premier jour de la semaine, c'est ce qu'affirme le littré, le dictionnaire, et les japonais. Ou alors le dernier jour, selon la norme ISO 8601. Alors, commencer à Tuyutekata ou finir en ISO, il y a de quoi être schizo, hein. Et puis, dans la famille, semaine hebdomadaire, suis-je l'aîné ou le petit dernier? Ah, c'est pas le même concept, hein.
Non.
Et mon père, c'est qui mon père? Constantin Ier? Ou Chronos? Ou peut-être le facteur du calendrier des postes? Alors, un jour, j'ai voulu savoir qui j'étais vraiment, et le site qui sait tout, surtout, Wiki sait tout, ce site, il écrit sur moi, je cite, « Cet article ne cite suffisamment pas ses sources, merci de le compléter en donnant des références utiles à sa vérifiabilité. » C'est énorme, ça. Ils disent de moi, le dimanche, que je ne suis pas vérifié depuis 1695 années. Mais j'en ai pour des siècles d'analyse. Bon, alors, revenons à nous, vous les gens et moi le dimanche. Alors, si ça ne va plus entre nous, si vous préférez le samedi, moi je peux disparaître, hein, je me supprime. Alors, au moment où je vous parle, nous sommes à Brest, le samedi 6 février 2016, il est 22h04. Et du coup, eh ben, si je me retire demain, puisque je serai plus là, moi, le dimanche, eh ben, demain, c'est lundi, voilà. Ça vous irait, hein? Ah. Vous voyez bien que vous avez encore un peu envie de moi. Non, le problème, c'est que vous ne savez pas me prendre. Oui, monsieur, vous vous y prenez comme un manche, le dimanche. Il faut apprendre à me reconquérir, à me sublimer. On a vu parfois rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux et il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Alors, on peut essayer. En deux mots, comme dit Victor Hugo, voici comment. Et si vous mettiez tout simplement du dimanche dans votre vie? Toutes ces choses pénibles que vous n'aimez plus chez moi, repassez-les discrètement à la semaine. Exemple. Le lundi, jogging. Le mardi, travail du dimanche. L'amour conjugal le mercredi. Le gigot le jeudi, les devoirs le vendredi et samedi la compta. Et le dimanche alors, moi, débarrassé de tous ces parasites, je redeviendrai cette belle journée de soleil, ce beau dimanche, ce bon dimanche, ce joli dimanche. Remettez-moi dans votre vie pour faire de moi un nouveau dimanche, pour me redécouvrir. Je serai le dimanche à l'anguille de Baudelaire. Le dimanche est semblable au prince dénué qui hante la semaine et se rit de l'archer. Ses grâces matinées l'empêchent de voler. Je serai le dimanche retrouvé du petit Marcel. Longtemps je me suis couché le dimanche. Je serai le dimanche glorieux du grand Charles. Toute ma semaine, je me suis fait une certaine idée du dimanche. Je serai le dimanche aventurier de Vigny. Oui, il chassait le loup chaque week-end. Seul le dimanche est grand, tout le reste est semaine. Je serai le dimanche empanaché de Pagnol. Le dimanche, aux coquines de sort, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois dans la semaine. Je serai le dimanche indécis d'Aragon. La première fois que Bérénice prit son dimanche, elle le trouva franchement long. Je serai le dimanche africain de Karen Blixen. I had a Sunday in Africa. Je serai le dimanche idéal de François H. Le dimanche, c'est maintenant. Je serai le dimanche romantique de Musset. Les plus désespérés sont les jours les plus beaux, et je sais des dimanches qui sont de purs gigots. Et je serai enfin le dimanche immarcessible de Marguerite. La voix, elle dit, d'abord. La voix qui dit, elle parle. La voix, elle dit le mot dit. Oui, elle dit. Et puis, la voix qui dit, manche. Aussi, elle dit, et elle dit, manche. La voix qui dit d'abord et qui dit manche après. Alors forcément, la voix, elle dit, dimanche.
Les Papous en public au Quartz de Brest pour Longueur d'onde, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Gilles Manet, chargé de production Rémi Gouriot. Un numéro des Papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an pour vos collections de Papous en public à réécouter sans modération. Et des émissions en public, il y en aura d'autres cette saison. Nous serons au Salon du Livre de la Porte de Versailles dimanche 20 mars prochain et à Lyon le samedi 2 avril à l'invitation des étudiants de Normale Sup littéraire. On se retrouve dimanche prochain à 12h50. Au revoir, passez un bel après-midi en bonne compagnie bien au chaud sur France Culture.
Quoi?